Chapitre 16. Le grand jour des propitiations. Un chemin encore fermé. Ce chapitre développe quelques-uns des principes les plus importants dont nous puissions nous occuper. Il présente la doctrine de la propitiation avec une force et une plénitude incomparables. Historiquement, ce chapitre nous offre un récit des actes qui devaient être accomplis lors du grand jour des propitiations en Israël. Par ceci, les relations de l'Éternel avec l'Assemblée étaient établies et maintenues, tous les péchés, les fautes et les infirmités du peuple étaient expiés, en sorte que l'Éternel, Dieu, pouvait habiter parmi eux. Le sang qui était répandu en ce jour solennel constituait la base du trône de l'Éternel au milieu de la congrégation. En vertu de ce sang, le Dieu saint pouvait avoir sa demeure au milieu du peuple, malgré toutes ses impuretés. Le 10e jour du 7e mois était un jour unique en Israël. Il n'y avait pas un autre jour semblable dans toute l'année. Les sacrifices de cette journée étaient le fondement des voies de Dieu en grâce, en miséricorde, en patience et en long support. Nous apprenons, en outre, qu'à cette époque, le chemin des lieux saints n'avait pas encore été manifesté, Dieu était caché derrière un voile, et l'homme était tenu à distance. Et l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, lorsque, s'étant approchés de l'Éternel, ils moururent. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, ton frère, qu'il n'entre pas en tout temps dans le lieu saint, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure pas, car j'apparais dans la nuée sur le propitiatoire. » Versets 1 et 2. Le chemin n'était pas ouvert pour que l'homme puisse s'approcher en tout temps de la présence divine, ni y demeurer constamment. Dieu était au-dedans, loin de l'homme, et l'homme était tenu au-dehors, loin de Dieu. Le sang des taureaux et des boucs ne pouvait ouvrir un lieu de rapprochement permanent. Il fallait pour cela un sacrifice d'un ordre plus élevé et un sang plus précieux. Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, rendre parfait ce qui s'approche. Autrement n'eussent-ils pas cessé d'être offerts, puisque ceux qui rendent culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de péché. Mais il y a dans ces sacrifices, chaque année, un acte remémoratif de péché, car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. Hébreux chapitre 10, versets 1 à 4. Ni la sacrificature lévitique, ni les sacrifices lévitiques ne pouvaient amener à la perfection. L'insuffisance, l'infirmité et l'imperfection étaient gravées sur eux. Un homme imparfait ne pouvait pas être un sacrificateur parfait, et un sacrifice imparfait ne pouvait pas rendre une conscience parfaite. Aaron n'était ni compétent ni qualifié pour prendre place au-dedans du voile, et les sacrifices qu'il offrait ne pouvaient pas déchirer ce voile. En voilà assez sur le point de vue historique de notre chapitre. Considérons-le maintenant au point de vue typique. Aaron, type de Christ. Aaron entrera de cette manière dans le lieu saint, avec un jeune taureau pour sacrifice pour le péché et un bélier pour holocauste. Verset 3. Nous avons encore ici les deux grands aspects de l'œuvre expiatoire de Christ, comme ce qui sauvegarde parfaitement la gloire divine et répond parfaitement aux plus grands besoins de l'homme. Il n'est pas fait mention dans tous les services de ce jour unique et solennel d'une offrande de gâteau, ni d'un sacrifice de prospérité. La vie humaine parfaite du Seigneur n'est pas figurée ici, ni la communion de l'âme avec Dieu en conséquence de l'œuvre accomplie par Christ. Le seul sujet de ce chapitre, c'est la propitiation, et cela d'une double manière. D'abord comme satisfaisant à tous les droits de Dieu, droit de sa nature, droit de son caractère, de son trône, et ensuite comme répondant parfaitement à toute la culpabilité de l'homme et à tous ses besoins. Nous devons avoir ces deux points présents à l'esprit si nous voulons nous former une idée claire de la vérité présentée dans ce chapitre. C'est de cette manière qu'Aaron devait entrer dans le lieu saint avec la propitiation qui, d'une part, sauvegarder la gloire de Dieu relativement à ses conseils d'amour rédempteur et à tous les droits de son administration morale, et, d'autre part, répondait parfaitement à la condition coupable et misérable de l'homme. Ces deux faces de la propitiation se présenteront constamment à nous dans notre étude de ce précieux chapitre. On ne saurait leur accorder trop d'importance. Il se revêtira d'une sainte tunique de lin, et des caleçons de lin seront sur sa chair, et il se ceindra d'une ceinture de lin, et il s'enveloppera la tête d'une tiare de lin, ce sont de saints vêtements, et il lavera sa chair dans l'eau, puis il s'en vêtira. Verset 4. Aaron, lavé d'eau pure et revêtu de vêtements blancs de lin, nous offre un type de Christ entreprenant l'œuvre de la rédemption. Il se montre personnellement et dans tout son caractère pur et sans tache. En lui, nous voyons la personne de notre divin sacrificateur dans toute sa sainteté essentielle. Le Saint-Esprit prend plaisir à placer Christ devant les yeux de son peuple, et sous quelque aspect que nous le contemplions, nous voyons en lui le même Jésus, parfait, pur et incomparable, porte-bannière entre 10 000, dont toute la personne est désirable. Il n'avait pas besoin de faire ou de porter quoi que ce soit pour être pur et sans tache. Il n'avait besoin ni de se laver avec de l'eau ni de se revêtir de fin lin. Il était, d'une manière intrinsèque et pratique, le saint de Dieu. Ce qu'Aaron faisait et ce qu'il portait ne sont que de faibles ombres de ce que Christ est. La loi n'avait que l'ombre et non l'image même des biens à venir. Béni soit Dieu, nous n'avons pas seulement l'ombre, mais l'éternelle et divine réalité, Christ lui-même. Aaron et sa maison. Et il prendra de l'assemblée des fils d'Israël 2 boucs pour un sacrifice pour le péché et 1 bélier pour un holocauste. Et Aaron présentera le taureau du sacrifice pour le péché qui est pour lui-même et fera propitiation pour lui-même et pour sa maison. Versets 5 et 6. Aaron et sa maison représentent l'Église non pas comme le corps de Christ, mais comme une maison sacerdotale. Ce n'est pas l'Église comme nous la voyons présentée dans les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, mais plutôt comme nous la trouvons dans la première épître de Pierre, dans ce passage bien connu. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 5. De même, dans l'épître aux Hébreux, nous sommes sa maison, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. Hébreux 3, verset 6. Nous devons nous rappeler qu'il n'y a dans l'Ancien Testament aucune révélation du mystère de l'Église. Il y a des types et des figures, mais il n'y a aucune révélation positive. Ce mystère des Juifs et des gentils formant un seul corps, un homme nouveau, uni à un Christ glorifié dans le ciel, ne pouvait évidemment pas être révélé avant que Christ ait pris sa place en haut. Paul fut tout spécialement l'administrateur de ce mystère. Voir Éphésiens 3, versets 1 à 12. 2 boucs, un sort pour l'Éternel. Et il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, et Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Et Aaron présentera le bouc sur lequel le sort sera tombé pour l'Éternel et en fera un sacrifice pour le péché. Et le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin de faire propitiation sur lui pour l'envoyer au désert pour être Azazel. Versets 7 à 10. Nous avons dans ces 2 boucs les 2 faces déjà mentionnées de la propitiation. Le sort pour l'Éternel, tombé sur l'un, et le sort pour le peuple, tombé sur l'autre. Dans le cas du premier, il n'était pas question des personnes ou des péchés qui devaient être pardonnés, ni des conseils de grâce de Dieu envers ses élus. Ces choses, je n'ai pas même besoin de le dire, sont d'une importance infinie. Mais elles ne sont pas comprises dans le sacrifice pour le péché fait avec le bouc sur lequel tombait le sort pour l'Éternel. Ce dernier représente la mort de Christ comme ce en quoi Dieu a été parfaitement glorifié relativement au péché en général. Cette grande vérité est pleinement illustrée par l'expression « le sort pour l'Éternel ». Dieu a une part spéciale dans la mort de Christ, une part tout à fait distincte, une part qui demeurerait éternellement bonne, même si aucun pécheur ne devait être sauvé. Pour concevoir la force de cette affirmation, il faut se rappeler combien Dieu a été déshonoré dans ce monde. Sa vérité a été dédaignée, son autorité méprisée, sa majesté méconnue, sa loi transgressée, ses droits ont été oubliés, son nom a été blasphémé, ses caractères ont été déformés. Or, la mort de Christ a pourvu à tout cela. Elle a parfaitement glorifié Dieu dans le lieu même où toutes ces choses ont été commises. Elle a parfaitement réhabilité la majesté, la vérité, la sainteté, le caractère de Dieu. Elle a divinement satisfait à toutes les exigences de son trône. Elle a fait propitiation pour le péché. Elle a fourni un remède divin pour tout le mal que le péché a introduit dans l'univers. Elle procure une base sur laquelle Dieu peut agir en grâce, en miséricorde et en amour envers chacun. Elle donne une garantie pour l'expulsion et la perdition éternelle du prince de ce monde. Elle forme le fondement impérissable du gouvernement moral de Dieu. En vertu de la croix, Dieu peut agir selon sa propre souveraineté. Il peut déployer les gloires incomparables de sa nature et de ses caractères. Dans l'exercice d'une justice inflexible, il aurait pu destiner la famille humaine à l'étang de feu avec le diable et ses anges. Mais, dans ce cas, où serait son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa longanimité, sa compassion, sa patience, sa parfaite bonté? Et d'un autre côté, si ces attributs avaient été exercés en l'absence de l'expiation, où serait la justice, la vérité, la sainteté, la gloire morale tout entière de Dieu? Comment la grâce et la vérité auraient-elles pu se rencontrer, ou la justice et la paix s'entrebaiser? Comment la vérité aurait-elle pu germer de la terre, ou la justice regarder des cieux? Impossible. Rien sauf l'expiation accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait glorifier Dieu pleinement, mais elle l'a glorifié. Elle a réfléchi toute la gloire du caractère divin, comme elle n'aurait jamais pu l'être au milieu des splendeurs d'une création innocente. En perspective et en souvenir de ce sacrifice, Dieu use de patience envers ce monde depuis des millénaires. En vertu de ce sacrifice, les plus impies des hommes vivent, se meuvent et existent. Ils mangent, boivent et dorment. Que mon lecteur ne s'y méprenne pas. Je ne parle pas ici du pardon ou du salut des individus. Ce dernier est une toute autre chose et se rattache, ainsi que le sait tout vrai chrétien, à la confession du nom de Jésus et à la foi en celui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Romains 10, verset 9. C'est bien évident et parfaitement compris, mais ce n'est en aucune manière impliqué dans le point de vue de la propitiation dont nous nous occupons maintenant et qui est figuré par le bouc sur lequel tombait le sort pour l'Éternel. Dieu pardonnant aux pécheurs et l'acceptant est une chose. Le support dont il use envers cet homme et les bénédictions temporelles dont il le comble sont une toute autre chose. L'une et l'autre ont lieu en vertu de la croix, mais sous une face et par une application totalement différente. Conséquences de la propitiation pour l'humanité entière. Cette distinction est importante si nous voulons avoir une claire intelligence des voies de Dieu en gouvernement, soit dans le passé, soit dans le présent, soit dans l'avenir. On y trouve la clé d'un grand nombre de passages qui offrent des difficultés considérables à beaucoup de chrétiens. J'en citerai quelques-uns comme exemple. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. À cette déclaration se rattache un passage analogue de la première épître de Jean, où il est parlé du Seigneur Jésus-Christ comme la propitiation pour le monde entier. 1 Jean 2, verset 2. Il ne s'agit pas ici des péchés du monde entier, comme plusieurs versions le disent à tort. Dans la première partie du verset, Christ est présenté comme la propitiation pour les péchés de son peuple, mais dans la seconde, il n'est pas question de péché ou de personne, mais du péché et du monde en général. En fait, Le verset entier présente Christ comme l'antitype des deux boucs, comme celui qui a porté les péchés de son peuple, et aussi comme celui qui a parfaitement glorifié Dieu relativement aux péchés en général et a trouvé un moyen pour agir en grâce envers le monde entier et pour la délivrance et la bénédiction finale de toute la création. Dans les deux passages cités ci-dessus, il est parlé du Seigneur Jésus comme de celui qui a parfaitement glorifié Dieu relativement aux péchés et au monde dans l'acceptation la plus étendue de ces mots. On le voit ici comme le grand antitype du bouc sur lequel tombait le sort pour l'Éternel. Cela nous donne une vue des plus précieuses sur la propitiation faite par Christ, laquelle est trop souvent négligée ou peu comprise. Soulever la question des individus et du pardon des péchés, en rapport avec ces passages de l'Écriture, nous embarrasse dans d'insurmontables difficultés. Il en est de même à l'égard de tous les passages dans lesquels est présentée la grâce de Dieu envers le monde en général. Ils sont fondés sur le point de vue spécial de la propitiation dont nous nous occupons ici. Allez dans tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Marc 16, verset 15. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Jean 3, verset 17. Notre Dieu Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité, car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, témoignage qui devait être rendu en son propre temps. 1 Timothée 2, verset 1 à 6. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Tite 2, verset 11. Mais nous voyons Jésus qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que, par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tout. Hébreux 2, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Dieu est glorifié et peut faire grâce. Les passages ci-dessus sont un témoignage évident et non équivoque de la grâce divine envers tous, sans la moindre allusion à la responsabilité de l'homme, d'un côté, ou des conseils éternels de Dieu, de l'autre. Ces vérités sont tout aussi clairement et incontestablement l'une que l'autre enseignées dans la parole. L'homme est responsable, et Dieu est souverain. Tous ceux qui se soumettent aux Écritures admettent cela. Mais, en même temps, il est de la première importance de reconnaître toute l'étendue de la grâce de Dieu et de l'œuvre de Christ. Cela glorifie Dieu et laisse l'homme entièrement sans excuse. Des raisonnements mettent en avant les décrets de Dieu et l'incapacité où est l'homme de croire sans l'intervention divine. Mais chacun, quiconque, et tous, sont les termes dont Dieu lui-même se sert. Qui donc est exclu? Si Dieu envoie un message de salut à un homme, assurément il le lui destine. Aussi, rejeter la grâce de Dieu et puis donner pour excuse d'un pareil acte les desseins mystérieux de Dieu, c'est le plus haut degré de l'impiété. S'il était vrai que des hommes peuvent être empêchés, par les secrets décrets de Dieu, de recevoir l'évangile qu'il a commandé de leur annoncer, alors, d'après quel principe de justice, subirait-il le châtiment d'une destruction éternelle pour n'avoir pas obéi à cet évangile? De Thessaloniciens 1, verset 6 à 10. Est-il une seule âme qui pourra objecter que les conseils de Dieu sont la cause de sa présence en enfer? Non. Dieu a amplement pourvu à tout par le sacrifice de Christ, non seulement pour le salut de ceux qui croient, mais aussi pour la présentation de sa grâce envers ceux qui rejettent l'évangile. Il n'y aura aucune excuse. Ce n'est pas parce qu'un homme ne peut pas, mais parce qu'il ne veut pas croire qu'il subira le châtiment d'une destruction éternelle. L'homme qui se retranche derrière les décrets de Dieu, tout en refusant délibérément sa grâce, commet une erreur fatale. La grâce de Dieu est à la disposition de tous. Le sort pour l'Éternel est tombé sur la vraie victime, afin que Dieu puisse être parfaitement glorifié quant au péché, sous son aspect le plus étendu, et être libre d'agir en grâce envers tous et de faire prêcher l'Évangile à toute créature. Cette grâce et cette prédication doivent avoir une base solide. Cette base se trouve dans la propitiation, et lors même que l'homme la repousserait, Dieu est glorifié par l'exercice de la grâce et par l'offre du salut, à cause de la base sur laquelle l'une et l'autre reposent. Il est glorifié, et il sera glorifié pendant toute l'éternité. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Il vint donc une voix du ciel, et je l'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau. Maintenant est le jugement de ce monde. Maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi-même. Jean 12, versets 27 à 32. Jusqu'ici, nous ne nous sommes occupés que du bouc sur lequel était tombé le sort pour l'Éternel. On pourrait penser que ce qui doit suivre immédiatement, c'est ce qui a rapport au bouc Azazel, qui nous donne l'autre grande face de la mort de Christ, ou son application au péché du peuple. Mais non, le sang du bouc égorgé, de même que celui du jeune taureau qui était pour Aaron, était d'abord aspergé, sur et devant le propitiatoire, afin de montrer que toutes les exigences du trône de l'Éternel étaient satisfaites par le sang de l'expiation. Le sang de propitiation porté au-dedans du voile. Et Aaron présentera le taureau du sacrifice pour le péché qui est pour lui-même, et fera propitiation pour lui-même et pour sa maison. Et il égorgera le taureau du sacrifice pour le péché qui est pour lui-même, puis il prendra plein un encensoir de charbon de feu de dessus l'autel qui est devant l'Éternel, et plein ses paumes d'encens de drogues odoriférantes pulvérisées, et il les apportera au-dedans du voile. Et il mettra l'encens sur le feu devant l'Éternel, pour que la nuée de l'encens couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, afin qu'il ne meure pas. Versets 11 à 13. Nous avons ici une image bien claire et bien frappante. Le sang de l'expiation est porté au-dedans du voile, dans le lieu très saint, et là, il en est fait aspersion sur ce qui figurait le trône du Dieu d'Israël. La nuée de la présence divine était là, et afin qu'Aaron puisse paraître dans la présence immédiate de la gloire et ne pas mourir, la nuée de l'encens devait s'élever et couvrir le propitiatoire sur lequel il fallait faire aspersion du sang par sept fois. L'encens de drogues odoriférantes pulvérisées exprime la bonne odeur de la personne de Christ. Et il prendra du sang du taureau, et il en fera aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire, vers l'orient, et il fera aspersion du sang avec son doigt sept fois devant le propitiatoire. Et il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché, qui est pour le peuple, et il apportera son sang au-dedans du voile, et fera avec son sang, comme il l'a fait avec le sang du taureau. Il en fera aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Versets 14 et 15. 7 est le nombre parfait. Et l'aspersion du sang faite par sept fois devant le propitiatoire nous apprend que, quelle que soit l'application du sacrifice de Christ, aux choses, aux lieux ou aux individus, il est parfaitement apprécié dans la présence divine. Le sang qui rend Dieu propice et dont la portée est universelle, soit pour la formation de l'Église, soit pour le salut de l'Assemblée d'Israël, Zacharie 12, verset 10, soit pour la restauration et la bénédiction finale de toute la création, ce sang a été offert devant Dieu. Il a été aspergé et accepté selon toute la perfection, la bonne odeur et la valeur de Christ. Par la puissance de ce sang, Dieu peut accomplir tous ses conseils éternels de grâce. Il peut former l'Église et l'élever aux plus grandes hauteurs de la gloire en dépit de toute la puissance du péché et de Satan. Il peut ramener les tribus dispersées d'Israël, unir Juda et Éphraïm, accomplir toutes les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il peut sauver et bénir des multitudes innombrables d'entre les gentils. Il peut rétablir et bénir la création. Il peut déployer à la vue des anges, des hommes et de tout être créé sa gloire personnelle et éternelle, la gloire de son caractère, la gloire de son essence, la gloire de ses œuvres, la gloire de son gouvernement. Tout cela, il peut et il veut le faire. Mais l'unique piédestal sur lequel cet immense édifice de gloire reposera à jamais, c'est le sang précieux de la croix. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous voyons l'importance et la valeur attachée au sang de Jésus-Christ. Si nous regardons l'autel des reins, nous y voyons le sang. Si nous regardons l'autel d'or, nous y voyons le sang. Mais nulle part nous ne trouvons autant de grandes choses relativement au sang qu'au dedans du voile, devant le trône de l'Éternel, dans l'immédiate présence de la gloire divine. Et il fera propitiation pour le lieu saint, le purifiant des impuretés des fils d'Israël et de leurs transgressions, selon tous leurs péchés. Et il fera de même pour la tente d'assignation, qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Verset 16. Nous rencontrons partout la même vérité. Il faut pourvoir au droit du sanctuaire. Il faut que les parvis de l'Éternel, aussi bien que son trône, rendent témoignage à la valeur du sang. Le tabernacle, au milieu des souillures d'Israël, devait être protégé tout alentour par les divines ressources de la propitiation. En toute chose, l'Éternel prend soin de sa propre gloire. Les sacrificateurs et leurs services, le lieu de culte et tout ce qui était contenu, subsistaient en vertu du sang. Le Dieu saint n'aurait pas pu demeurer au milieu de l'assemblée sans la puissance du sang. C'était là ce qui lui permettait d'habiter, d'agir et de régner au milieu d'un peuple coupable. Et personne ne sera dans la tente d'assignation quand il y entrera pour faire propitiation dans le lieu saint, jusqu'à ce qu'il en sorte. Et il fera propitiation pour lui-même et pour sa maison, et pour toute la congrégation d'Israël. Verset 17. Il fallait qu'Aaron offre un sacrifice pour ses propres péchés, aussi bien que pour les péchés du peuple. Il ne pouvait entrer dans le sanctuaire qu'en vertu du sang. Au verset 17, nous avons un type de la propitiation faite par Christ, dans son application à l'Église et à l'Assemblée d'Israël. L'Église entre maintenant dans les lieux saints par le sang de Jésus. Hébreux 10, verset 19. Quant à Israël, le voile est encore sur leur cœur. 2 Corinthiens 3, verset 15. Ils sont encore éloignés, quoiqu'il ait été amplement pourvu, à la croix, à leur pardon et à leur rétablissement lorsqu'ils se tourneront vers le Seigneur. Dans un sens, toute la période actuelle est pour eux le jour des propitiations. Celui que représente Aaron est entré dans le ciel même, avec son propre sang, afin de paraître en la présence de Dieu pour nous. Bientôt il en sortira pour introduire l'assemblée d'Israël dans tous les résultats de son œuvre. En attendant, sa maison, c'est-à-dire tous les vrais croyants, sont associés avec lui, ayant toute assurance pour entrer dans le lieu très saint, étant approchés par le sang de Jésus. Et il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il fera propitiation pour lui. Et il prendra du sang du taureau et du sang du bouc, et le mettra sur les cornes de l'autel tout autour, et il fera sur lui aspersion du sang avec son doigt, cette fois, et il le purifiera, et le sanctifiera des impuretés des fils d'Israël. Versets 18 et 19. Il était donc fait aspersion du sang partout, depuis le trône de Dieu au-dedans du voile, jusqu'à l'autel qui était dans le parvis du tabernacle. Le chemin du lieu très saint est ouvert. Il était donc nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux fussent purifiées par de telles choses, mais que les choses célestes elles-mêmes le fussent par de meilleurs sacrifices que ceux-là. Car le Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de main, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu, ni non plus afin de s'offrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints chaque année avec un sang autre que le sien, puisque dans ce cas il aurait fallu qu'il souffrît plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, en la consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela le jugement, ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché, à salut à ceux qui l'attendent. Hébreux 9, versets 23 à 28. Il n'y a qu'un chemin pour entrer dans le lieu très saint, et c'est un chemin aspergé de sang. C'est inutile de chercher à y entrer par une autre voie. Les hommes peuvent s'efforcer de s'y frayer une route par leurs œuvres, leurs prières ou leur argent, mais c'est en vain. Dieu parle d'un chemin, d'un seul, et ce chemin a été ouvert par Christ à travers le voile déchiré. C'est par ce chemin que des millions d'âmes sauvées ont tous passé, de siècle en siècle. L'unique sacrifice de la croix est suffisant pour tous. Le bouc Azazel, ou le bouc qui s'en va. Et quand il aura achevé de faire propitiation pour le lieu saint, et pour la tente d'assignation, et pour l'autel, il présentera le bouc vivant. Et Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël, et toutes leurs transgressions, selon tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, et l'enverra au désert par un homme qui se tiendra prêt pour cela. Et le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre inhabitée. Et l'homme laissera aller le bouc dans le désert. Versets 20 à 22. Nous avons ici la seconde grande pensée attachée à la mort de Christ, savoir le pardon complet et final. Si la mort de Christ forme la base de la gloire de Dieu, elle forme aussi la base du pardon des péchés de tous ceux qui mettent leur confiance en elle. Cette dernière application de l'expiation vient en second, quoique nos pauvres cœurs soient portés à la considérer comme l'aspect le plus élevé de la croix. La gloire de Dieu est en première ligne. Le plus cher objet du cœur de Christ était le maintien de la gloire de Dieu. Cet objet, il l'a poursuivi du commencement à la fin, sans jamais dévier de son but, et avec une fidélité à toute épreuve. À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne. Jean 10, verset 17. Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et aussitôt il le glorifiera. Jean 13, versets 31 et 32. Écoutez-moi, île, et soyez attentive, peuplade lointaine. L'Éternel m'a appelé dès le ventre, dès les entrailles de ma mère, il a fait mention de mon nom. Et il a rendu ma bouche semblable à une épée aiguë. Il m'a caché sous l'ombre de sa main. Et il a fait de moi une flèche polie. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. » Ésaïe 49, versets 1 à 3. La gloire de Dieu était donc l'objet principal du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie et dans sa mort. Il vécut et mourut pour glorifier le nom de son Père. L'Église perd-elle quelque chose pour autant? Non. Et Israël? Non. Et les gentils? Non. Leur salut et leur bénédiction ne pouvaient être mieux assurés qu'en étant subsidiaires de la gloire de Dieu. Écoutez la réponse divine faite au Christ, le véritable Israël, dans le passage qui vient d'être cité. C'est peu de chose que tu me sois serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. Ésaïe 49, verset 6. Il est bien précieux de savoir que Dieu est glorifié par l'abolition de nos péchés. Les deux boucs du jour des expiations donnent les deux faces d'un seul acte. Dans l'une, nous voyons la gloire de Dieu maintenue, dans l'autre, les péchés mis de côté. L'une est aussi parfaite que l'autre. Par la mort de Christ, nous sommes tous aussi parfaitement pardonnés que Dieu est parfaitement glorifié. Il n'y a pas un seul point sur lequel nous ne soyons parfaitement pardonnés. Et bien que l'assemblée d'Israël soit au premier plan dans la belle ordonnance du bouc Azazel, cependant, elle s'applique aussi pleinement à toute âme qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Quelle partie des péchés d'Israël le bouc Azazel emportait-il? Tous. Aucun n'était laissé. Et où les portait-il? Dans une terre inhabitée. Une terre où on ne pourrait jamais les retrouver, parce qu'il n'y aurait personne pour les chercher. Lecteur, savez-vous que tous vos péchés vous sont pardonnés en vertu de la perfection du sacrifice de Christ? Si vous croyez simplement en son nom, ils sont pardonnés et ôtés pour toujours. Ne dites pas, comme tant d'âmes inquiètes, « Je crains de ne pas le réaliser. » Nous ne sommes pas sauvés par la réalisation, mais par Christ. Et pour avoir Christ dans toute sa plénitude et sa valeur, Il faut croire, seulement croire. L'œuvre de Christ n'a pas besoin que vous y ajoutiez votre réalisation pour être rendue parfaite. On pourrait tout aussi bien dire que l'œuvre de la création n'était pas complète, jusqu'à ce qu'Adam la réalise dans le jardin d'Éden. Il est vrai qu'il réalisa quelque chose, mais quoi? Que l'œuvre était parfaite. Puissiez-vous maintenant et toujours vous reposer en toute simplicité sur celui qui, par une seule offrande, a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, verset 14. Et comment sont-ils sanctifiés? Par la foi. Acte 26, verset 18. Aspect prophétique pour Israël. Il est encore un point sur lequel je désire attirer l'attention avant de terminer cette section. Et ceci sera pour vous un statut perpétuel. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous affligerez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, tant l'Israélite de naissance que l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car, en ce jour-là, il sera fait propitiation pour vous afin de vous purifier. Et vous serez purs de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat de repos et vous affligerez vos âmes. C'est un statut perpétuel. Versets 29 à 31. Cela aura bientôt son complet accomplissement dans le résidu sauvé d'Israël, ainsi que le prédit le prophète Zacharie. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né. En ce jour-là, il y aura une grande lamentation à Jérusalem, comme la lamentation de Hadad-Rimon dans la vallée de Mégidon. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, et pour le péché et pour l'impureté. Il arrivera, en ce jour-là, qu'il n'y aura pas de lumière. Les luminaires seront obscurcis. Mais ce sera un jour connu de l'Éternel. Pas jour et pas nuit. Et au temps du soir, il y aura de la lumière. Et il arrivera, en ce jour-là, que des eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer d'Occident. Cela aura lieu été et hiver. Et l'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il y aura un Éternel, et son nom sera un. En ce jour-là, il y aura sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Et il n'y aura plus de Cananéens dans la maison de l'Éternel des armées, en ce jour-là. Zacharie 12 à 14. Quelle journée ce sera! Il n'est pas étonnant qu'il en soit si fréquemment parlé dans le brillant passage ci-dessus. Ce sera un beau sabbat de repos. Quand le résidu, menant deuil, et dans l'esprit de la vraie repentance, se rassemblera autour de la source ouverte et entrera dans le résultat complet et final du grand jour des expiations. Ils affligeront leurs âmes, sans doute, car comment pourraient-ils faire autrement, quand ils fixeront leur regard sur celui qu'ils ont percé? Mais quel repos ils auront! Jérusalem connaîtra le salut après sa longue et triste nuit de douleur. Ces désolations précédentes seront oubliées, et ces enfants, rétablis dans leurs anciennes demeures, reprendront leurs harpes et chanteront de nouveau les cantiques de Sion à l'ombre paisible de leurs vignes et de leurs figuiers.